Saint Bède le Vénérable, l'un des plus grands saints de l'Angleterre, un moine, un abbé, un savant. Aussi, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, une carmélite étrange, étonnante. Si vous voulez entendre la vie d'une femme absolument hors du commun, vous serez intéressé. Et finalement, encore un moine bénédictin, Saint Grégoire VII, pape très illustre, qui est devenu plutôt illustre au XVIIe siècle et au XIXe siècle, bien qu'il ait vécu au tout premier siècle de ce millénaire. Il est mort en 1085. On en dit tant de bien que on peut le considérer vraiment comme l'un des grands saints de l'Église. On l'a appelé le Vénérable de son vivant. Il parlait les trois langues que notre Seigneur a honorées, si on peut dire, durant au moment de sa passion, au moment de sa mort, puisque si on croit que Jésus-Christ dirigeait un peu les choses d'une certaine façon, puisqu'il était Dieu, et bien sûr la croix, on sait que on a posé un écriteau en latin, en grec et en hébreu. Or, Saint Bède parlait ces trois langues couramment. Il excellait aussi dans la rhétorique, la poésie, l'histoire, la dialectique, ou si vous voulez, la philosophie, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la théologie. À une époque où c'était extrêmement rare, pardon, il connaissait toutes ces choses d'une façon tellement fantastique qu'il passait pour l'homme le plus instruit de son temps, peut-être, et il vivait donc en Angleterre, dans le comté de Northumberland. La quantité des ouvrages qu'il a composés est si grande qu'on pourrait dire de lui ce que saint Augustin avait dit d'un très grand savant dans La Cité de Dieu, ce grand ouvrage de saint Augustin. On pourrait dire que Bède a tant écrit qu'à peine a-t-il eu le loisir de lire ce qu'il a écrit. Et cependant, il a tant lu qu'il est surprenant qu'il ait trouvé le temps pour écrire ce que nous savons qu'il a écrit. Ce qui est plus admirable, c'est qu'il a acquis toutes ses connaissances sans sortir de son monastère et en demeurant toujours en Angleterre. C'est un des rares grands saints de cette époque et même des siècles suivants qui n'ait pas parcouru l'Europe, car la plupart des saints, c'est absolument fabuleux, parcourent les pays, traversent les frontières, se rendent soit à Rome, soit à Jérusalem. Lui ne sortait pas de son monastère. Sa grande érudition a porté ses supérieurs, les supérieurs de son monastère, à lui donner des écoliers. Il les instruit si parfaitement que l'un d'entre eux en particulier est devenu extrêmement célèbre, tant par sa piété que ses écrits, c'est le fameux Alcuin, qui a été le précepteur de Charlemagne. Alors, si on dit que Charlemagne a créé les écoles, comme on dit dans une chanson, on pourrait dire que notre saint du jour, Saint Bède, le vénérable Bède, en a été le grand-père. Et sa réputation n'a pas pu être enfermée dans l'Angleterre. Elle se répandit dans toute la France, dans l'Italie, dans toute l'Europe, on peut dire dans tout le monde chrétien. Et son humilité était très grande, en dépit de ses grands dons d'intelligence et de sagesse. Il avait d'ailleurs un curieux don de prophétie. Il avait prédit, au cours des premiers 100 ans de ce millénaire, donc vers l'an 1050, il a prédit l'irruption des musulmans ou des sarrasins dans l'Europe, laquelle arriva au temps de Charles Martel. Et cela nous laisse croire que par la vertu de ses prières, c'est-à-dire, je m'excuse, il est né au 7e siècle, je pensais à un autre saint, il est né en 671, donc vers 700 quelque chose, n'est-ce pas, les Sarrasins ont envahi l'Europe. Et alors il l'avait prédit, ça nous donne le sujet de croire que ce fut par ses prières que les Français ont pu vaincre les musulmans. C'est Charles Martel, n'est-ce pas, qui les a repoussés. Mais il est temps de penser que la mort de cet homme a été quelque chose d'absolument étonnant. On écrit au sujet de la mort de Bède, ce vénérable, c'était écrit il y a très longtemps, c'est le cardinal Baronius qui écrit ça dans ses annales, ce vénérable prêtre, étant arrivé à une heureuse vieillesse, se sentit pressé 15 jours avant Pâques, d'une difficulté de respirer, il n'en ressentait pas de grande douleur, mais il ne laissa pas de reconnaître qu'il était mortel et que l'heure de son décès approchait. Alors il a continué néanmoins de dicter ses leçons à l'ordinaire jusqu'à la veille de l'ascension et durant tout ce temps, il exhortait ses écoliers à étudier encore avec plus de ferveur que de coutume. « Parce que je ne sais pas, disait-il, combien de temps je serai encore avec vous et si mon Créateur ne me retirera pas bientôt de votre compagnie. » Et le reste du temps, il l'employait à chanter les louanges de Dieu, à le remercier de toutes les grâces qu'il avait reçues, de sa bonté, depuis qu'il était au monde. Il disait souvent ces étonnantes paroles de saint Paul, « C'est une chose horrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. » Et il chantait aussi, assez souvent, avec eux, cette belle antienne de l'Église, « Ô roi de gloire, Seigneur des vertus, qui êtes monté triomphant au-dessus de tous les cieux, ne nous laissez pas orphelins. » Et à ces mots, il fondait tout en larmes, continue Baronius, dont il était doué d'une tendresse admirable et d'un désir ardent d'aller bientôt jouir de Dieu. Il se consolait encore par ces paroles de saint Ambroise, « Je n'ai point vécu parmi vous, en sorte que j'ai honte d'y vivre, et je ne crains point de mourir, parce que nous avons un bon maître. » Cet homme qui a vécu cette vie absolument étonnante, je tiens à vous le dire, il était orphelin très jeune. Il était entré au monastère à 7 ans. 7 ans. C'est pas la première fois qu'on voit ça depuis je vous raconte des 8 saints. C'est tout de même étonnant de penser que ces enfants, qui n'entraient dans des monastères habituellement que pour y rester une dizaine d'années, comme on entrait dans mon jeune temps dans un collège de jésuites ou d'ailleurs, ou de prêtres séculiers, comme à l'Assomption, ce collège qui ferme bientôt, eh bien, on entrait là, on était pensionnaire, moi j'ai été externe, la plupart des élèves étaient pensionnaires, ne sortaient que 2 fois par année, hein, en plus des vacances d'été. C'était presque un cloître, dans un certain sens. C'était comme ça dans les années 40, 50. Et alors donc, à cette époque, cet homme qui est né en 671, Bède, était orphelin, entré à l'abbaye dans le Northumberland. C'était Saint Benoît Biscope, qui était abbé. Et 3 ans plus tard, quand l'enfant a eu 10 ans, on l'a confié à Saint Selfrid, son coadjuteur, pour sa fondation de Jarrow. L'abbaye de Jarrow a été très illustre, justement, parce que c'est dans cette abbaye que s'est écoulée la vie de ce docteur, de ce savant qu'est Bède le Vénérable. Et c'est là qu'il reçut, dans sa 19e année, le diaconat, mais il hésitait à devenir prêtre. Il n'a accepté d'être prêtre qu'à 30 ans. Et il est mort, finalement, à 63 ans, encore jeune, hein. Mais il avait fait un travail magistral. Hein? Il a passé toute sa vie dans ce monastère de Jarrow, occupé à l'étude des Saintes Écritures, l'observance de la discipline régulière, le souci de chanter chaque jour la louange divine dans l'Église comme un vrai bénédictin, trouvant son plaisir à apprendre, à enseigner, à écrire. Au temps de Bède, donc, au 8e et 9e siècle, l'évangélisation des royaumes d'Angleterre, qui avait marqué un temps d'arrêt après la disparition de Saint-Augustin de Canterbury, dont c'est la fête samedi, connaissait un regain de vigueur. Et alors, ce regain de vigueur est dû à différents saints qui ont fondé une école à Canterbury, Canterbury en anglais, n'est-ce pas? Et c'était des lettrés qui savait parfaitement le grec. Ils ont instruit l'abbé du monastère, Benoît Biscup, qui a transmis son héritage à Saint-Bède. Et puis, il a laissé Saint-Bède des traductions de la Bible, des commentaires de la Bible. Et souvent, on pense que les catholiques n'étudiaient pas la Bible. Mais il faut voir le travail fantastique qui a été fait sur la Bible, donc au 8e siècle. On retrouve ces travaux à travers les siècles. Et la culture de Bède, son goût et son goût extraordinaire pour la culture classique était énorme. Hein? Aristote et grand médecin Hippocrate lui sont connus. Mais surtout les latins, Cicéron, Sénèque, Pline, Virgile, Ovide, Lucain. On retrouve des choses de Virgile dans ses récits de miracles. Il manie la prose, les vers, ceci assez gauchement peut-être, mais Bède n'a rien au fond d'un bel esprit. Hein. Il a écrit cet ouvrage magistral qui est l'Histoire ecclésiastique. Il nous donne un ouvrage tellement grand qu'il mérite bien le titre de docteur de l'Église. Il est prêtre et moine avant tout. Alors, il fréquente assidûment les pères de l'Église. Alors, qui sont ces pères de l'Église? C'est les grands écrivains du début de l'Église. On les appelle les pères de l'Église parce qu'ils ont fait de grands commentaires des Écritures. Ils ont discuté à fond dans des ouvrages immenses des données de la foi afin d'affermir, de solidifier et de bien construire les dogmes et les choses qu'il faut croire pour être un véritable chrétien, d'après les évangiles, les épîtres et la Bible dans son entier. Et parmi ces pères de l'Église qu'il a fréquentés assidûment, il y a saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, saint Grégoire le Grand, qui était un bénédictin, et ses écrits en sont absolument tributaires. Hein. Ça ne veut pas dire que saint Bède n'a pas fait preuve d'originalité. Son œuvre contient à peu près toute la science de son temps. L'orthographe, le métrique, la cosmologie, toutes les choses aussi que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et c'est surtout par ses écrits historiques et ses analyses de la Bible qu'il est connu. Un grand historien, un grand homme politique anglais, Burke, a appelé Bede « the father of English learning ». Le père de l'érudition anglaise. Les figures de moines celtes qu'il a étudiées, et qu'il a connues d'ailleurs au monastère de Jarrow, ont fasciné l'âme simple et tendre de ce jeune moine qui était entré, comme je vous l'ai dit, à 7 ans. Il regrette la douceur du temps, son enfance, où il vivait en leur compagnie. Son amour pour la vérité, sa fidélité à l'Église de Rome sont les plus forts. Ce sentiment se fera jour notamment dans cette histoire ecclésiastique dont je viens de vous parler, où, tout en déplorant le meurtre des moines de Bangor, il y avait eu une querelle entre moines, il ne peut s'empêcher d'y voir une espèce de punition de leur refus d'évangéliser leurs adversaires. Ces moines avaient refusé d'évangéliser leurs ennemis. C'était une époque très dure, hein, où il y avait des guerres constantes entre petite région contre petite région. Et les monastères étaient des centres de paix, presque toujours des centres de paix. Un accident arrive parfois où des moines ne comprennent pas leur mission pacificatrice dans toute l'Europe. C'est eux qui ont établi la paix dans toute l'Europe. Son histoire de la conversion de l'Angleterre s'arrête 4 ans avant sa mort. Parallèlement à l'histoire de l'évangélisation des Anglo-Saxons, ce livre contient un tableau saisissant de la rivalité qui existait entre les missionnaires romains et les Celtes. C'est un peu curieux à lire, c'est un peu troublant, mais ça demeure très beau parce qu'on voit jaillir au creux de tout ça la véritable foi et le véritable idéal. On lui doit également une bonne part de notre information sur la mythologie germanique, la grande mythologie des Germains. Tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a fait est absolument fabuleux. Il a commenté presque toute la Bible, Saint Bède. Il a commenté d'abord la Genèse, jusqu'à la naissance d'Isaac. Il y suit d'ailleurs les données de Saint Ambroise et de Saint Basile, de Saint Jérôme et de Saint Augustin. Puis, il commente aussi tout le reste du Pentateuque. Vous avez déjà lu peut-être ou essayé de lire comme moi le Pentateuque, c'est pas facile. Eh bien, il le commente de façon très personnelle, en y joignant une étude sur le tabernacle des Juifs, et même les vêtements sacrés des prêtres juifs. Et pour le Nouveau Testament, ses commentaires sur les évangiles et les actes des apôtres sont les plus originaux. Là. Saint Paul est commenté d'après saint Augustin, dont il adopte toute la théologie. Du reste, dans ce commentaire qui est très interpellé, il est aujourd'hui difficile de savoir ce qui lui revient et ce qui revient à Augustin. C'est des travaux magistraux. Hein, comme on est en 700 quelque chose, hein, c'est absolument fantastique. Déjà de son vivant, son influence était tellement considérable sur presque tout ce que son époque et son pays renfermaient de plus élevé. Cela sans sortir de son monastère. Saint Bède fut assurément un parfait modèle de moine. Ce qui l'intéressait, c'était l'ardeur au travail, puis la fidélité à l'office divin. Il ne ratait pas de prier. Je pense à des gens qui disent « Je n'ai pas le temps d'aller à la messe tous les jours, je travaille trop fort. » Mais je crois que si on court tôt le matin ou le midi, en rongeant sur son temps de manger, ou à la sortie du travail, si on peut arrêter et assister à une messe quelque part, si on prenait la peine de savoir à quelle heure sont les différentes messes, il y en a même le soir, hein, à 7h au métro Mont-Royal, chez les Pères de Saint-Sacrement, 7h30 à Notre-Dame-de-Lourdes, au métro Berry de Montigny, 8h à l'oratoire, on peut aller à la messe si on veut, si on y tient. C'est un peu l'office, ça, des laïcs, hein, notre messe quotidienne. Alors, les vertus les plus marquantes chez Bède sont ces vertus-là. L'ardeur au travail, la fidélité à l'office, l'amour de l'office divin. Le saint l'avait puisé aux origines même de sa vocation monastique. Car à peine installé à Jarrow, ce fut ravagé par la peste. Écoutez bien ça. La peste a tué presque tous les moines. Il ne resta au cœur que l'abbé et ce jeune orphelin, âgé de 10 à 12 ans, qui était Bède. L'office canonial fut néanmoins assuré tout entier, avec la plus scrupuleuse exactitude jusqu'à l'arrivée de nouveaux renforts. Et on sait aussi quelle fidélité il a gardé à cet office jusqu'à sa mort. Le 26 mai 735, Bède expirait en récitant le Gloria Patri. Et son disciple Cuthbert a raconté cette sainte mort dans une lettre célèbre. C'est bouleversant d'étudier ces vies. On se dit, le jour de sa mort, il corrigeait quelques passages de saint Isidore de Séville. Son disciple lui dit qu'il ne restait qu'un chapitre, mais qu'il paraissait bien fatigué. Et saint Bède lui dit, non. Prends ta plume et écris le plus vite que tu pourras. Plus tard, comme il manquait une phrase, il lui recommanda de se presser, de l'écrire. Et comme le jeune moine lui disait, « C'est fait, père. » Et l'autre, Saint Bède, lui dit, « Tu as raison, c'est bien fini. » Il se prosterna alors pour chanter le Gloria Patri. « Le gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est maintenant, comme il sera pendant les siècles des siècles. » Et c'est là qu'il a expiré. Cet amour de l'étude joint à celui de la prière liturgique a fait de Saint Bède l'un des premiers modèles du bénédictin, tel qu'on aime à se le figurer. C'était vraiment un bénédictin à plein. Il voulait être vrai partout, parce qu'il se sentait partout en présence de Dieu. Je répète, il voulait être vrai partout, parce qu'il se sentait partout en présence de Dieu. Or, fidèle à la doctrine de Saint Benoît, il n'eut rien de plus à cœur que de s'effacer, et jamais il ne voulut quitter son humble condition pour des honneurs qui ne lui auraient certes pas manqué s'il en avait voulu. Les papes l'ont appelé, mais il a refusé de quitter son monastère. Rien d'étonnant à ce que la voix populaire, dès le IXe siècle, s'y soit plu à lui décerner le titre de vénérable sous lequel on discernait les saints en Angleterre. Sa patrie, l'Angleterre, devait un jour, sous Henri VIII, qui s'était révolté contre l'Église catholique, eh bien, ses reliques ont été profanées. Sa patrie a profané ses reliques, avec celles de plusieurs autres saints, comme on sait, qui étaient conservées à Durham. Vous vous souvenez, le comte de Durham, là, qui a écrit ce rapport sur le Canada français, il y a plus de 100 ans. Mais son culte à Saint-Bède demeurait vivace jusqu'au jour où Léon XIII l'a sanctionné de son autorité, puis l'a étendu à l'Église universelle assez récemment, en 1899. Mais rien d'étonnant que le fameux cardinal Newman, cet éminent anglican, remarquable anglican, qui a opté pour la foi catholique, au siècle dernier, a été séduit par cette belle figure de moine. Il lui a décerné cet éloge auquel on souscrit de bons juges. C'est le cardinal Newman qui parle, John Henry Newman. Bède est le type du bénédictin, comme saint Thomas d'Aquin, le type du dominicain. Je vous rappelle que le cardinal Newman, qui est décédé en honneur de sainteté, est bien de plusieurs anglicans, de la haute église d'Angleterre, se sont rendus il y a une quarantaine d'années, je crois, à Rome, au Vatican, pour voir le pape, pour lui demander, chose étonnante, eux qui sont anglicans, mais anglicans qui se disent catholiques anglicans, et très attachés à ce que le pape déclare, sans adhérer à l'église catholique, et bien ils ont demandé au pape, à l'époque, de canoniser John Henry Newman, bien qu'il soit devenu catholique, parce qu'ils le considèrent comme toujours un des leurs, et ils ont une énorme admiration pour lui. C'est touchant de voir ce rapport entre anglicans et catholiques, car le cardinal John Henry Newman, héritier, si on peut dire, au 19e siècle, de Saint Bède le Vénérable, par son esprit d'étude, par sa grande humilité, sa grande bonté, eh bien, John Henry Newman avait toujours gardé pour l'anglicanisme, sa religion dans laquelle il était né, un attachement profond. Nous allons passer maintenant à une grande sainte, une carmélite, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi. Son père était un seigneur, Camille Leggeri de Pazzi, et sa mère était Marie-Laurence de Buondelmonte, deux nobles, deux des familles les plus réputées de la Toscane, en Italie. Elle est née le 2 avril 1566, et elle a mené une vie absolument étrange et étonnante. Elle est morte jeune, mais c'est une des saintes carmélites les plus étranges. Elle s'appelait Catherine à sa naissance, à cause de Catherine de Sienne. Cette merveilleuse dominicaine, elle n'était pas vraiment dominicaine, elle était laïque, mais elle était du tiers ordre dominicain. Catherine de Sienne qui osait aller parler au pape pour lui dire de se réformer. Catherine de Sienne qui était une mystique. Catherine de Sienne qui était attachée à l'église au point de vénérer le pape tout en osant dire ce qu'elle pensait. Catherine de Sienne qui était un grand modèle de sainteté. Eh bien, Marie-Madeleine de Pazzi, ou Catherine de Pazzi, avait une grande dévotion pour sa patronne Sainte Catherine. Et à peine avait-elle 7 ans, qu'elle avait trouvé dans un livre le symbole, si vous voulez, le credo, le « Je crois en Dieu », si on veut, de Saint Athanase, dont il a été question il y a quelques semaines. Elle a eu tant de satisfaction à 7 ans d'en faire la lecture qu'elle a couru sur le champ le montrer à sa mère. C'était étrange, et Dieu lui donnait déjà des lumières sur le mystère de la très sainte Trinité. Elle a appris tout de suite le pater, l'ave, le credo, si vous voulez, le notre père, le je vous salue Marie, puis le je crois en Dieu. Elle les répétait fort souvent, puis elle prenait plaisir de les enseigner aux pauvres qui les ignoraient. Elle s'amusait avec les jeunes, puis quand elle allait au champ, mais elle aimait bien rassembler les petites villageoises pour leur donner des instructions sur la foi chrétienne. Ça me rappelle, dans mon enfance, il y avait des jeunes, je me souviens de jeunes amis assez riches, qui avaient obtenu de leurs parents des aubes avec de la dentelle, des chasubes, des étoles. On appelait ça un manipule, c'était un morceau de tissu qu'on attachait au bras, les prêtres portaient ça quand ils disaient la messe. Ils portaient des petites barrettes, ils avaient des autels, des tabernacles, des ciboires, des calices, et ils jouaient à la messe. Et ils nous faisaient des petits sermons, mais ils avaient 5, 6, 7 ans. Alors, c'est donc pas rien de nouveau si elle s'amusait comme ça, mais s'appliquait dès lors, elle, à l'oraison, toute jeune. Elle cherchait les lieux solitaires assez souvent, les endroits paisibles de la grande maison où elle habitait. Puis elle se prosternait contre terre. Elle passait des heures entières dans cette espèce d'exercice qu'elle faisait, à se pencher, à se redresser. Et elle conçut un désir ardent de plaire à Dieu. Elle ne pouvait plus goûter les douceurs de ce monde. Les douceurs que le monde recherche avec tant d'empressement ne l'intéressaient plus. Et ce qui est admirable, plus admirable peut-être dans un âge aussi tendre, aussi jeune, mais ce sont ces désirs ardents qui embrasaient son cœur pour recevoir l'Eucharistie. Il voulait recevoir le corps vivant de Jésus-Christ dans l'hostie. Et on ne le lui accordait pas. Elle était trop jeune. Alors elle s'approchait le plus près de sa mère lorsque celle-ci avait communié. On communiait rarement à l'époque, hein. Et elle ne quittait pas sa mère de la journée quand ça arrivait. Alors, elle goûtait les mêmes douceurs, semble-t-il, que celles que sa mère avait reçues ou celles que les gens qui avaient communié avaient reçues. Et même, on dit qu'elle avait peut-être des douceurs encore plus grandes. On s'étonnait devant cette fillette qui avait peut-être 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est une ferveur extrêmement rare. C'était pas tout le monde qui était comme ça, évidemment. Elle quittait le monde sans avoir encore pu comprendre comment la créature, comment l'homme, comment la femme pouvait se résoudre à commettre un seul péché contre son Créateur. C'est quand on est arrivé, j'ai l'impression, à la conception, la certitude que Dieu nous aime d'un amour immense, qu'on ne peut plus pécher. On pêche malgré soi, mais pécher volontairement, de façon certaine, quand on sait ça, et c'est la grâce qu'il faut demander de comprendre que Dieu nous aime. Le salut de l'âme est dans l'amour. Faire naître l'amour au creux de notre âme, où Dieu est présent, l'Esprit Saint qui est tout amour, est au creux de notre âme et peut grandir et nous faire comprendre ça. La présence de Marie-Madeleine consolait les affligés. C'était un supplice pour les personnes abandonnées au crime. Et un jour, un jeune libertin, comme on dit, était venu à la grille pour parler à une des carmélites, qui était novice, et à peine a-t-il aperçu la sainte en compagnie de cette jeune religieuse. À l'époque, deux religieuses devaient toujours être ensemble au parloir. Une religieuse ne se présentait pas seule. Je crois que c'est encore comme ça, d'ailleurs. Alors, le jeune libertin, comme on dit, en fut tout troublé, se sentit forcé de sortir de sa présence, puis il profita néanmoins de cette rencontre pour reconnaître le mauvais état de son âme. Il s'est converti, puis il a fait pénitence, il a changé de vie. En somme, les ardeurs qu'elle avait pour le salut des hommes la poussaient quelquefois à crier « Oh amour, amour, donnez-moi une voix si forte
que je me fasse entendre de l'Orient à l'Occident et dans toutes les parties du monde, afin que vous soyez reconnus et aimés partout comme le véritable amour. Est-ce que ça vous rappelle pas Sainte-Thérèse l'enfant Jésus, hein? Morte à la fin du siècle dernier, messagère pour le 20e siècle de l'amour de Dieu. C'est la même chose, c'est le même cri, hein? Et Thérèse l'enfant Jésus, qui a été nommée patronne des missionnaires, patronne de ceux qui répandent l'amour à travers l'univers, je répète, hein, oh amour, amour, donnez-moi une voix si forte que je me fasse entendre de l'Orient à l'Occident et dans toutes les parties du monde, afin que vous soyez reconnus et aimés partout comme le véritable amour. Alors, comme elle voyait l'heure de la mort qui approchait, elle a fait appeler la mère supérieure, à laquelle elle a dit tant de choses touchant le gouvernement de son monastère, puis elle a pris congé de toutes les religieuses, elle leur a donné ce dernier avis. N'oubliez pas qu'elle a été maîtresse et novice, cette sainte, hein, pendant 7 ans. Elle dit, mes révérendes mères et mes très chères sœurs, me voici sur le point de vous quitter jusqu'à l'éternité. Eh bien, je vous prie d'une chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la dernière grâce que je vous demanderai. Que vous n'aimiez rien que lui, que vous mettiez toute votre espérance en lui, et que vous vous embrasiez continuellement du désir de souffrir pour son amour. Après quoi, elle a rendu heureusement son âme à Dieu le 25 mai de l'an 1607, le lendemain de l'Ascension, à midi, âgée de 41 ans, 2 mois et quelques jours, après en avoir passé 25 en religion, et son visage devint si beau, si vermeil, que l'on ne pouvait se laisser de le considérer. Je vous rappelle que j'étais témoin du même phénomène au mois de janvier 1994 pour sœur Lucille Roy de la Congrégation Notre-Dame. Je l'ai vu. Alors, on ne saurait exprimer les honneurs que l'on rendit aussitôt à sa mémoire, mais les miracles qui se firent avant qu'on l'ait mis en terre marquèrent assez qu'elle en méritait encore de plus grands, et je me contenterai d'en rapporter un qui est très édifiant. On l'avait posé dans l'église avec le visage tourné vers la sacristie, puis on s'aperçut qu'elle le tourna en un moment de l'autre côté parce qu'il y avait à cet endroit un homme débauché dont elle ne put souffrir les regards, même après sa mort. Curieux. Peut-être possible. Son corps, revêtu d'une tunique, d'un scapulaire et d'un manteau de taffetas blanc au lieu de celui de drap, fut inhumé derrière le grand autel. 2 ans après, il fut trouvé sans puanteur ni corruption. Saint, S-A-I-N, saint, et aussi antique qu'il y avait été mis. Et avec une couleur et une odeur admirables, quoiqu'il ait été enterré sans cercueil et sans avoir été embaumé. Urbain VIII l'a déclaré bienheureuse, et Clément X l'a canonisé avec commandement d'en faire l'office le 25 de mai. Nous allons parler brièvement d'un saint un peu curieux, Saint Grégoire VII, un pape. Un pape qui est mort en l'an 1085. C'est un bénédictin très illustre qui a écrit des essais pour faire cesser le schisme d'Orient qui était survenu quelques 30 ans plus tôt avant sa mort. Le schisme d'Orient, c'est-à-dire la séparation, moi qui m'attriste énormément, de cette église qu'on appelle l'église orthodoxe, de l'église catholique. Quelle tristesse que 2 églises qui croient les mêmes choses, qui adhèrent aux mêmes vérités, qui sont des églises sœurs siamoises au fond, soient séparées. Quelle tristesse. Alors, il a Saint Grégoire, qui s'appelait Hildebrand, hein, qui est né vers 1015, de parents ordinaires en Toscane, a été élevé dans un monastère romain de Sainte-Marie-Aventine, dont un de ses oncles était abbé bénédictin. Il a été nommé lui-même, cet Hildebrand, le futur Grégoire VII, il a été nommé lui-même abbé de Saint-Paul, la grande abbaye de Saint-Paul à Rome. Il a réformé ce monastère avec tant de succès que le pape Léon IX l'a envoyé comme légat, son légat du pape, si vous voulez, ambassadeur du pape, en France pour lutter contre deux choses terribles qui ont hanté la vie de ce pape, Grégoire VII, la simonie et le nicolaïsme. Je m'explique. La simonie, c'est la vente de dignités ecclésiastiques. Vous vous direz, mais c'est inconcevable. Oui. On vendait des dignités ecclésiastiques. La plupart des gens sont au courant de ce que c'est que la simonie. Mais il y a des gens ici là, qui ne savent pas. Bien, c'était terrible dans l'Église. On faisait ça. Et puis le nicolaïsme, c'était le désordre des mœurs ecclésiastiques. Bon, des prêtres mariés qui avaient des maîtresses et des enfants en dehors du mariage, etc. C'était épouvantable. Alors, lors des funérailles d'Alexandre II, en 1073, le peuple a acclamé Hildebrand, ce moine bénédictin, comme son successeur. Et les cardinaux ont ratifié aussitôt ce choix. Et en un quart de siècle, six papes s'étaient tour à tour assis sur le trône de Saint-Pierre. Et Hildebrand avait été pour eux un précieux conseiller. Il était le plus apte à leur succéder. Sous le nom de Grégoire VII, il s'était forcé de régler simultanément tous les problèmes. Alors c'est là qu'il a écrit ses essais, ce bel essai sur le schisme d'Orient. Et l'autre, c'est un essai curieux pour préparer une croisade. Il voulait reprendre aux musulmans Jérusalem qui était tombée entre les mains des Turcs en 1070. Ça venait d'arriver. Et si les circonstances n'ont pas permis à Grégoire VII de mener à bien ces deux projets, il est juste, aujourd'hui, de reconnaître qu'il en a eu l'initiative. Avant son élévation au trône de Saint-Pierre, il avait obtenu la rétractation formelle d'un hérétique qui s'appelait Béranger, qui niait la présence réelle dans l'Eucharistie. Ça s'est obtenu au Concile romain de 1078-1079. Puis Béranger s'est réconcilié avec l'Église. Il a, ce pape, favorisé la conquête de l'Angleterre par les Normands de Guillaume le Conquérant en 1066. Vous vous souvenez cette fameuse conquête de l'Angleterre en 1066? Eh bien, c'est Grégoire VII qui a favorisé ça. Il l'a favorisé parce qu'il avait vu dans cette expédition une croisade. Et dans son chef, Guillaume le Conquérant, un champion de l'Église contre la simonie. C'est toujours la simonie. Il veut lutter contre les ventes de dignité ecclésiastique. Il faut encore signaler le rôle qu'il a eu dans la constitution du droit canon. Et puis, en somme, les deux idées dominantes du règne de Grégoire VII sont la réforme du clergé grâce à la centralisation à Rome. Puis la lutte pour la suprématie de l'Église sur le pouvoir temporel. C'était une lutte énorme. Hein? Au service de ses idées, Grégoire va déployer toute son énergie, puis se heurte à la fois aux clercs dépravés, aux princes laïcs. Mais pour arriver à ses fins, bien, il commence par réduire à des dignités purement honorifiques les fonctions qui, en s'émancipant, auraient pu devenir des têtes d'Église nationale, les primats, comme on dit. Ici, le primat de l'Église canadienne, c'est l'archevêque de Québec. Hein. Puis, il rétablit sous une autre forme un rouage indispensable entre le pape et les évêques, c'est les légats, les ambassadeurs. Il a fait un tel travail, il a écrit toutes sortes de choses, en particulier sur la chasteté et les autres vertus, en disant qu'elles ne valent rien, car la chasteté perd son prix si elle n'est accompagnée des autres vertus. En somme, il ne s'agit pas d'être chaste, purement et simplement. Il s'agit d'être vertueux, mais il recommande la chasteté à ses prêtres. Ses prêtres ne sont pas toujours contents. Puis il y a la grande querelle des investitures, sur laquelle nous pourrions revenir à un autre moment, qui est une querelle extrêmement importante, c'est la nomination des évêques par les empereurs et les rois. C'est toute la querelle du sacerdoce et de l'Empire. Or, l'œuvre de Grégoire VII a été très diversement jugée. On a vu là-dedans une ambition de domination universelle, mais d'autres, comme Edgar Quinet, s'est plu à saluer en Grégoire VII un ancêtre de la Révolution française s'appuyant sur les peuples pour briser le despotisme des rois. En fait, Grégoire VII n'a été ni un diplomate psychologue, ni un théoricien politique, mais un saint.
inflexible, pour devoir, par devoir, puis confiant par nature. Il était pénétré du sentiment de sa responsabilité, mais toujours enclin à pardonner. Il a pardonné à des gens qui se sont opposés à ses idées. Il a tout fait pour transformer l'Église. Et après 500 ans, il a été déterré et on a constaté que son corps était encore intact en 1580. En 1606, Paul V l'a canonisé et Benoît XIII a proclamé que la fête de Saint-Grégoire VII serait célébrée le 25 mai dans l'Église universelle.